Nous sommes heureux d'accueillir Jean-François Perret. Depuis de nombreuses années, Jean-François Perret frotte son théâtre à des problèmes posés par la science et la technique, à travers des spectacles qui évoquent les figures tutélaires de la science, mythiques comme Faust ou historiques comme Galilée, Darwin, la mathématicienne Sophie Kovalevsky ou Alan Turing. Il signe régulièrement ses spectacles avec le biologiste Alain Prosciance. Parmi ses dernières créations, on recense un diptyque américain, Re Walden, à partir de l'œuvre de Henry David Thoreau, et Citizen Jobs, une fantaisie autour du créateur d'Apple. Son prochain spectacle, La fabrique des monstres, ou Des mesures pour mesure, une variation autour du Frankenstein de Mary Shelley, sera donné au Théâtre de Vidy, Lausanne, en janvier 2018, avec notamment Jeanne Balibar, Jacques Bonafé, sur une musique de Daniel Guizy, avec l'IRCAM. Il a été 2 ans artiste-professeur invité au Frénois et y a présenté une exposition-installation en 2013, Walden Memories. Et le titre de son intervention, c'est « Et compagnie ».
Si. Bon, je vais essayer de me livrer à un exercice d'intelligence individuelle et essayer de ne pas parler scientifiquement, parce que j'en suis incapable, mais peut-être artistiquement, c'est-à-dire de manière confuse et pour mettre un peu de trouble. Je ne saurais pas faire un exposé, mais je saurais simplement faire un relevé de quelques questions qui... Après 25 ans de pratique de la relation art et science, enfin d'une partie fragmentaire de ce problème, et après 2 jours de colloque, je voudrais vous faire part de quelques remarques.
Des questions qui sont
4 ou 5, mais j'espère ne pas être trop long. Non, c'est exprès. C'est dans type PowerPoint.
D'accord.
Vous ne comprenez rien de ce que je vais vous dire, et parce que vous êtes attiré par le théâtre. Mais on va écouter un petit peu quand même. J'essaierai justement d'accrocher ces remarques à quelques images comme ça de notre travail commun. Je suis désolé de parler que de ça, mais bon.
Est-ce qu'une sorte d'intuition, les mêmes questions peuvent être abordées par un texte poétique, les mêmes interrogations peuvent être vivantes, poétiques, dans une approche scientifique. En fait, c'est un petit peu ça.
Vous entendez là ?
Sans faire un discours scientifique, il y a un discours poétique qui serait dichotomique, qui serait sans intérêt, mais montrer qu'il y a quelque chose de poétique dans l'activité scientifique. Parce que bon, quand on voit qu'il jette des cailloux et puis que ça devient des gens d'hommes, ou que tout d'un coup il fait une fille en ivoire et tout d'un coup les doigts s'enfoncent et puis que ça devient une vraie femme, toute la question de la transformation, la question de la nutrition, pourquoi bien qu'on mange tout le temps et qu'on change tout le temps pour qu'on ait toujours le même. Ce sont des questions qui sont des questions du changement de sexe, des questions du monstre. Ce sont des questions qu'on rencontre en biologie tout le temps. Ça c'est clair. La question de la différence entre un homme et un animal, entre une plante et un animal. Ce sont des questions de biologiste, d'une certaine façon, on peut dire. Une façon de faire de la biologie qui prend en compte des questions de ce genre. Qui pense qu'il y a peut-être une partie d'intuition dans la découverte. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on a des intuitions ? Où ça vient les intuitions ? Ben, peut-être que ça vient de ces questions qu'on se pose. Donc, tiens, ça peut répondre à telle question, mais ce ne pas des questions qui sont forcément posées par l'observation du vivant. C'est des questions qui peuvent venir de plus loin, je ne sais pas.
Si tu dis, ça ne vient pas de comment ça marche.
Donc, vous avez reconnu la voix rajeunie d'Alain Prochian. Je voulais juste commenter quelque chose qui m'a un peu frappé c'est dans le titre du colloque, c'est le terme « et compagnie ». Je ne sais pas ce que vous en pensez après ces quelques jours, mais ça me rappelle un soir, effectivement, où les deux Alain cherchaient un titre pour ce colloque. Et je ne sais pas comment est sortie du chapeau cette idée « art, science et compagnie » qui a... quand même un brin de... Enfin, qui montre une espèce d'encanaillement en même temps. On imagine ce que des gens passant devant le Collège de France, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a un colloque, art, science et compagnie, là. Bon. T'as un peu fait un peu voyou comme ça, mais c'est bon signe sans doute, peut-être que maintenant les savants et les artistes font la paire. D'ailleurs, c'est une agence matrimoniale que notre exposition, on a vu quand même se créer des couples dans le cosmos ou peut-être plus sur Terre. Et nous, on a été déjà maqués depuis longtemps, Prochian et moi, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et tendanciel sans doute. Et ça, c'est la première remarque que j'aimerais faire, parce que cette séparation quand même des deux cultures littéraires et artistiques d'un côté, scientifiques de l'autre, elle me paraissait robuste. Je ne sais pas d'où on peut la faire, si on peut en faire l'histoire même, j'en ai pas les moyens, mais disons qu'il suffit déjà d'entrer dans une école, on est vite séparé entre littéraire et scientifique. Si on a ouvert un manuel, on appelle ça l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. On peut remonter, si on est angliciste, à la querelle entre Newton et Blake, et ainsi de suite, et retrouver Socrate, qui finalement peut-être préférait l'art de bien vivre, d'être sage, plutôt que de scruter l'univers. Et donc, est-ce que, au fond, en ce moment, avec tout ce qui se passe, notamment avec nous, est-ce que cette tendance lourde, cette opposition lourde, est en train d'être dépassée? Je ne sais pas. Il y a une formulation que j'aime bien, ce serait une remarque comme ça, c'est celle d'un philosophe, Pierre Hadot, qui, au fond, distingue deux cerveaux. J'ai essayé de savoir ce que les biologistes en pensent, je n'ai pas eu vraiment de réponse, mais c'est peut-être que je l'aurai tout à l'heure si Alain est dans la salle. Au fond, il distingue un cerveau prométhéen, c'est-à-dire un cerveau qui se sent défié par la nature et ses secrets. C'est quand même bizarre, au fond. Pourquoi la nature qui aime à se cacher nous obligerait-elle à vouloir percer son mystère? On peut, comme Orphée plutôt, c'est le deuxième cerveau, le cerveau orphique, préférer chanter le monde, caresser l'être, comme disait un philosophe de la forêt noire. Donc là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je n'ai pas de réponse, simplement. On sent qu'il y a tout un mouvement de rapprochement. Est-ce que c'est la nouvelle alliance de Prigogine, est-ce que c'est avec ces rapprochements l'idée d'une compagnie nouvelle? Bon. Ça c'est la première remarque que je ferai sans avoir véritablement de réponse, mais c'est vrai que la thématique, le art et science est devenu un topic d'époque ou une scie de ces temps-ci, comme j'aime dire, riez. Bon, et donc ça c'est quand même quelque chose qui mérite réflexion. Quand on vit la chose de l'intérieur, notamment du point de vue du théâtre, le théâtre étant pas l'art le plus en avance, mais il a de ses raisons, c'est-à-dire que cette alliance, cet alliage entre la science et le théâtre, par exemple, ne va pas de soi. Je me souviens d'un article à propos d'un des spectacles sur Darwin, je sais, qui, des journalistes, expliquaient la chose avec l'image du boa. Le boa, ça devait être le théâtre qui mange la science, la science lapin, mais on voit vraiment trop le lapin dans le boa, quoi. Donc ça doit être la digestion, ne va peut-être pas de soi. Donc ça, c'est une première remarque sur cette compagnie. Alors je crois que je voudrais donner un deuxième extrait. Si je le retrouve. Merci. Vous avez le temps de réfléchir pendant que je cherche.
Je peux être ou le bois flottant dans le torrent, ou Indra dans... confondu dans la nature. Je peux être ou le bois flottant dans le torrent, ou Indra dans le ciel, les yeux abaissés dessus. Je peux être touché par une représentation.
J'arrêterai là-dessus. Je montre simplement cette forêt qui est tirée d'un spectacle qui a trait au Fresnois aussi, puis c'était un exercice qu'on avait fait sur, à partir du texte de Thoreau, Walden, qui avait été justement abordé de manière très, très technologique. Et il y avait cet arbre numérique fait par Pierre Nouvel, qui est composé effectivement de citations du livre. Et donc, si vous voulez, la deuxième remarque, je pourrais l'intituler « La forêt numérique cache l'arbre de la science ». Et au fond, quand il y a une dyade comme ça, un couple, il faut toujours chercher le tiers qui se cache quelque part, pas forcément dans une armoire, etc. Ça peut être dans le ciel. Mais je pense qu'effectivement, c'est des restes peut-être de vieilles dialectiques, mais il doit y avoir quelque chose d'impensé ou de caché dans tout ça. Et je pense que la question d'art et science ne peut pas se poser en éliminant la question de la technique, qui est un peu l'impensé de l'affaire. Et je pense que c'est important quand nous utilisons justement ces dispositifs technologiques, et on en a vu aussi un exemple complètement merveilleux juste avant moi, c'est-à-dire au fond comment où est l'imagination humaine dans l'histoire, elle est là bien sûr, mais comment on gère nos machines. Et je pense que ce qui est assez intéressant dans cette histoire, et je donnerai simplement deux pistes, c'est à propos de la technique, ne pas la confondre avec la science déjà. Déjà par mesure conservatoire. Je me souviens anecdotiquement, j'aime beaucoup les journalistes, vous l'avez vu, qu'à propos de ce spectacle et de l'installation qui avait été faite au Fresnois, journalistes m'interrogeaient dans le Festival d'Avignon, ah, on va pouvoir parler de théâtre et science. Alors je dis, c'est pas de chance, parce que justement dans ce spectacle, il n'y a pas question vraiment de science, même si Thoreau, du 19e siècle quand même, est très vite darwinien, qui passe d'une conception transcendantaliste à la Emerson de la nature à quelque chose de darwinien et d'une approche scientifique. Bon, mais c'est pas ça que j'abordais tellement, j'abordais plutôt la question de la technique. Je dis, il n'y a pas de science là-dedans. Mais elle me dit, mais si, il y a des ordinateurs. Et effectivement, il y avait pas mal d'ordinateurs, il y en avait une douzaine, comme vous pouvez voir, entre le spectateur et le plateau. Mais au fond, il y a toujours cette confusion qui porte aussi sur la question de savoir comment nous travaillons avec les machines. Alors, c'est pas du tout la même chose pour l'art. Quand je parle de la forêt numérique, c'est pour remarquer que quelque chose quand même de tout à fait nouveau a surgi dans le paysage artistique, c'est les arts numériques. Bon. Et c'est intéressant que la révolution numérique, la révolution par ordinateur, ait pu produire de l'art. C'est pas vrai, toute grande révolution, même si on y réfléchit, l'imprimerie, bien déjà les gens se racontaient des histoires avant, se récitaient des poèmes, bien sûr ça amplifiait le phénomène, ça l'a potentialisé, etc. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment invention de genre nouveau, et je ne parle pas de forme, c'est une vraie question, alors qu'avec le numérique, avec l'ordinateur, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors pour les arts numériques eux-mêmes, même si moi j'ai été professeur dans la deuxième année au Fresnois, c'est-à-dire d'art numérique, il y a quelque chose qui va de soi d'une certaine manière, on peut inventer. Mais quand on est en relation avec des arts plus traditionnels, notamment surmoisés par le texte ou le livre, comme le théâtre, la chose est beaucoup plus compliquée. Et ce que je voudrais simplement marquer, c'est qu'il faut penser ce rapport aux machines. Moi, je le fais à partir de textes, effectivement. C'est pour ça qu'en prenant un texte qui est le moins technique possible, comme Walden de Thoreau, qui est, comme vous savez, l'homme qui se met dans sa cabane au bord de son lac et qui vit dans la nature. Bon, son rapport à la technique est plus compliqué que ça, mais je dis, on simplifie. Bon, il m'intéressait, effectivement, d'interroger... Enfin, il y a un double défi. Pour le dire vite, moi qui suis plutôt un homme de la galaxie Gutenberg, du livre, qu'est-ce qui se passe quand, comme le dit Primo Levi, quand il a son premier ordinateur, on sonne la diane dans la caserne, quoi. Et là, effectivement, ou bien on fait pas attention à la chose et on continue à vendre des cerisets, ou bien effectivement il y a quelque chose qui se passe et ces nouvelles technologies, ces dispositifs posent un problème quand même à, disons, au théâtre classique, même s'il ne fait pas un théâtre classique, mais disons au dispositif théâtral. Et je crois qu'il est assez intéressant d'interroger l'un par l'autre. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui reste d'un grand livre, par exemple, si on le passe à la moulinette numérique, mais en même temps, d'interroger la moulinette numérique pour savoir ce qu'elle peut vraiment raconter. Quoi. Je crois que c'est dans cette tension-là, je vais très vite, hein, c'est un peu sommaire, qu'un travail comme celui-ci a été fait. Dans le rapport à la technique, qui pour moi n'est pas le rapport à la science, c'est cette question qui m'intéresse. C'est-à-dire cette espèce de tension, conflit, qui est peut-être désespérée d'ailleurs, et plus que, au fond, l'invention de formes nouvelles. Et donc, ça mènerait sur la technique, je vais aller très vite, à une autre question qui est l'interrogation d'une phrase qui revient souvent dans certains, la technique au service de l'art. Je m'inquiète toujours, et là c'est quand même quelqu'un qui s'y connaissait qui en parle, Simondon, il faut se méfier quand quelqu'un se met au service de l'autre, il finit toujours par se révolter, ou bien il a déjà le pouvoir. Et donc là je crois que c'est aussi quelque chose d'important, cette question de l'assistance par ordinateur, qui est une expression, il y a l'AAO, quoi, l'art assisté par ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Est-ce qu'on sait où ça commence, où ça finit ? Et je pense que les œuvres qu'on peut produire dans les arts plus traditionnels, encore une fois, doivent se défier de toute illusion technologique, d'abord, de tout fétichisme, mais en même temps, songer à ce que disait Godard une fois à propos de quelqu'un, il disait, fais attention, c'est pas toi qui filmes, c'est Sony. Et là, je crois que c'est quelque chose... moi, je suis pas un geek, etc., donc je suis confronté à des gens qui me propose des choses ahurissantes techniquement, et je ne sais pas à quel moment c'est encore moi ou la compagnie humaine, disons, qui travaille, ou si c'est Sony ou autre chose qui commence à me dépasser, ce qui renvoie peut-être au mythe du dépassement par la machine. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui, enfin, toutes ces arts numériques, cette révolution, quelque chose qui a sans doute rapproché les artistes des laboratoires, disons, mais est-ce que pour autant ça réduit la question de la science ? C'est pas sûr. Je passerai à un autre. Enfin, c'est une question, quoi. C'est une question en tout cas, moi, en tant que, disons, je sais pas si je peux me qualifier d'artiste, mais enfin, je suis plus artiste que scientifique ce matin. C'est une question qui est sans cesse posée. Bon. L'autre idée, si vous voulez, c'est que. Ce qui s'est passé, puisqu'il s'est passé quelque chose quand même, puisqu'on peut dire art, science et compagnie, ce qui s'est passé sans doute, c'est, et je referai allusion au livre de Snow sur les deux cultures, vous savez, ce qui avait déclenché une polémique très grande à la fin des années 50, vraiment une guerre froide, où Snow disait il n'y a pas un artiste qui est capable de dénoncer la deuxième loi de thermodynamique et il n'y a pas deux scientifiques qui savent réciter trois vers Shakespeare. Et à partir de là, ils s'en prenaient plutôt à T.S. Eliot ou Pound, au littéraire qui allait faire perdre la guerre froide, hein, parce qu'il était encore dans une vision héroïque de la science. Et je crois que ce qui se passe quand même aussi, et plus profondément peut-être même que les rapprochements ou les visites dans les laboratoires, c'est, je dirais ça d'un mot, c'est que la science est maintenant l'affaire du peuple. Je veux dire par là qu'en pastichant une formule de Kafka un peu incompréhensible quand il dit « la littérature est l'affaire du peuple », je pense que ce qui s'est passé, qui peut expliquer aussi le topic d'époque dont je parlais tout à l'heure, c'est plusieurs choses. C'est que la bataille de 1959, s'il y a eu une guerre, il y a un vainqueur. Et je pense que le vainqueur, c'est la science. Et c'est peut-être mon côté brechtien qui pense que nous vivons vraiment l'ère scientifique, dans l'ère scientifique et qu'il faut en prendre la mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques ont su gagner d'une part la bataille de la popularisation. Alors, je dis ça à l'anglaise plutôt que vulgarisation. C'est-à-dire, effectivement, on voit dans nos médias, chez nos éditeurs, etc., énormément de littérature, tant mieux, hein, et de littérature scientifique. Il y a même des best-sellers, ce qui fait que ça concerne tout le monde. Ils ont gagné aussi sans doute la guerre culturelle, de l'hégémonie culturelle. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand même le modèle scientifique de l'organisation du savoir qui est très, très prégnant, qui a bouffé les sciences humaines. Il n'y a pas un sociologue maintenant qui ne soit pas obligé de se racler la gorge en disant qu'il va prononcer un énoncé scientifique. Et puis, ça gagne les artistes maintenant dans un processus de grande doctorisation dont j'ai déjà parlé, mais je ne reviens pas là-dessus, je n'ai pas le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose à interroger. Il faut se méfier quand même des scientifiques. C'est-à-dire aussi maintenir l'idée qu'il y a deux démarches différentes. Tout le monde voulait combler le fossé ou jeter des ponts, bridge the gap entre les deux cultures, je dirais mind the gap quand même, parce que sinon nous risquons d'être le lapin. Et je crois qu'effectivement l'artiste n'a pas les mêmes moyens ni les mêmes fins. Ça n'empêche pas les coïncidences, hein, les rencontres et les travaux en commun, je crois que je vais l'avoir démontré. Mais l'artiste ne travaille pas comme un scientifique, il ne vise pas, il ne s'adresse pas à ses pairs d'abord. Ça, c'est intéressant. Il a la chance, le scientifique, à la fois, il ne s'adresse qu'à ses pairs, qui le valident ou qui valident ce qu'il fait, et en même temps à tout le monde, parce que ça va concerner tout le monde, c'est ce que je veux dire. Tandis que l'artiste, il s'adresse à personne, à tout le monde ou à pas grand monde. Bon. Ce qui fait que la science est immédiatement populaire dans ce sens-là, et les arts, surtout ceux que nous faisons, nous, ici, dans ce cadre, sont élitaires. Et ça, c'est une vraie question aussi en ce moment. Surtout quand on vous dit « Ah, vous travaillez avec Alain Prochian, c'est élitaire. » Mais on ne lui dit pas, lui, qui est élitaire, si, quand il travaille. Vous voyez, là, il y a aussi un autre foyer de questions qui sont intéressants. Et je crois, alors, pour aller très rapidement, que la question est liée aussi à un changement de paradigme, pour reprendre un terme qui peut rendre compte des révolutions scientifiques, c'est-à-dire qu'on est passé, après Snow, là, après 59, mais sans doute, lui n'en était pas conscient, mais bien avant, d'un paradigme d'une science héroïque et épique, celle des Lumières, comme ça, à une science tragique. C'est-à-dire celle qui a pris la mesure, et nous avec, des trois révolutions, la révolution atomique, la révolution biologique et la révolution numérique, où à chaque fois, comme vous le remarquerez, l'avenir ou le destin, tragique ou pas, de l'espèce humaine est en cause. Et ça, c'est quand même un privilège scandaleux, sans doute, qu'a la science sur la... Il y a quelque chose là qui se passe, qui fait qu'on est tous concernés. J'ai assisté ici à des cours où Alain parlait du vieillissement cérébral, à des gens pas forcément très jeunes, mais on sentait que ça les concernait vraiment. Ça concerne tout le monde, tandis que moi, si je viens parler de Brecht, il y a tout de suite 10 fois moins de personnes. Il y a de la différence de talent, j'entends bien. Mais il y a quand même là quelque chose d'extrêmement important et qui doit être présent dans la constitution de ces ménages à deux, à trois, on va dire, de cette compagnie. Là, je ne sais pas si j'en suis là. J'ai pas le temps.
55, encore 5 minutes.
Bon. Je vais juste montrer une chose. Alors sur ce changement de paradigme, quelque chose qui effectivement est, si ça marche, un autre extrait, parce que c'est quand même, on avait droit à des images au bout de 2 jours. On parlait déjà du Benedict. C'est des extraits de Tournant autour de Galilée. Ça, vous avez déjà toute une idée de la chose, ça se lit très vite. Je vais arriver à... C'est beau, non? Là, c'est célèbre, aussi Jeanne Balibar et Bibi Latruy. J'y reviendrai peut-être, mais dans une autre vie. Voilà. Il y a une citation à l'intérieur de...
La scène 14, Bibi.
14 de la vie de Galilée.
Voilà. Bon, tu prends l'air intelligente et tu fais semblant de comprendre, hein, surtout. Le combat pour rendre le ciel mesurable est gagné à cause du doute, mais à cause de la foi. Le combat de la ménagère romaine pour son lait sera encore et toujours perdu. Moi, Je soutiens que le seul but de la science consiste à soulager les peines de l'existence humaine. Quand des hommes de science, intimidés par des hommes de pouvoir égoïstes, se contentent d'amasser le savoir pour le savoir, la science peut s'en trouver mutilée. Et vos nouvelles machines pourraient ne signifier que des tourments nouveaux. Vous découvrirez peut-être avec le temps tout ce qu'on peut découvrir. Et votre progrès, cependant, ne sera qu'une progression qui vous éloignera de l'humanité. L'abîme entre elle et vous pourrait un jour devenir si grand qu'à votre cri de joie devant quelques nouvelles conquêtes pourrait répondre un cri d'horreur universel.
Von einem universalen Entsetzen schrei.
Un cri d'horreur universel.
Ja, von einem universalen Entsetzen schrei. Voilà, très bien, voilà, très bien.
Ouais, c'est écrit, enfin, ce texte fameux, hein, qui marque au fond, à l'intérieur de l'œuvre de Brecht et de son projet galiléen, quand il le commence, c'est encore la science des Lumières, d'une certaine manière, et Galilée est le savant moderne, et puis c'est marqué par Hiroshima, là, le cri d'horreur universel, etc. Et là, Brecht est obligé de changer, il change lui-même de paradigme, et pour un marxiste, ce n'était pas très commode. Alors, il s'en tire en étant encore un dernier effort pour être marxiste, c'est-à-dire il va accuser, hein, dans la dernière version, il va accuser Galilée d'être, d'avoir vendu la science au complexe militaro-industriel, si on veut, ou à la classe dominante, quoi. Bon, mais alors après, c'est une discussion qui est encore ouverte, apparemment, et qui choque certains scientifiques, et qui est sans doute pas juste. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'intérieur, au fond, d'une œuvre qui veut être absolument optimiste historiquement, que ce retour du tragique se pose, et ce changement de paradigme, et qui nous impose effectivement maintenant, qui règle, en tout cas, contraint nos rapports sans doute avec la science, qui n'est pas réduite, à évidemment, dans mon sens, à la question de l'horreur universelle. Bon, je ne suis pas anti-scientifique, mais je veux dire, c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure, et notamment comment savoir, je termine là-dessus, comment, quel usage faire de la science. C'est certainement pas celui, pour moi, de la vulgarisation, parce que dans la vulgarisation, il y a forcément un sujet supposé savoir, et le faux dialogue, c'est-à-dire le savant fait poser au sens commun la question à laquelle il peut répondre. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement peut-être d'inviter le savant dans le théâtre en lui demandant non pas ce qu'il sait, parce qu'après tout, il y a les éditions d'Il Jacob pour le savoir, mais plutôt ce qu'il ne sait pas. Ce qu'il est en train de chercher, c'est-à-dire effectivement là peut-être frotter des imaginations à des imaginations, frotter du risque à des risques, et c'est comme ça au fond que la compagnie peut travailler aussi, c'est-à-dire saisir le moment, je dirais un moment poétique aussi, c'est-à-dire prendre un... Moi je travaille plutôt sur le discours scientifique, j'invente pas des mythes à partir des difficultés de la science, enfin, pour essayer de faire comprendre en cryogénisant mon personnage, en lui coupant la tête ou en le faisant dépasser par les machines. Non, c'est plutôt ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que c'est peut-être un peu délicat, c'est de travailler sur le discours des scientifiques, justement au moment où il est entre le moment de sa preuve et le moment où il n'est pas encore récupéré par les idéologies. C'est-à-dire par les curés, les éditorialistes, les philosophes, les amis des bêtes, les ennemis des bêtes, comme vous voulez. Bon. Mais il y a peut-être un moment d'extase, comme ça, un moment d'une épopée poétique qu'on peut trouver, et c'est ça dont l'art, notamment l'art théâtral, peut s'emparer. Je terminerai sur justement la chose qu'on a essayé de faire ensemble, Alain, dans le cadre de... prochain, dans le cadre de l'exposition du Fresnois, c'est-à-dire cette application... alors ça a été mal compris parce que certains ont cru que dans l'exposition les deux films un peu qui renvoient un théâtre qui est passé qui a déjà 15 ans, le traité des formes, c'était ça notre intervention. Alors, on n'est pas encore complètement gâteux. Ce qui était important, c'était effectivement de lire le cartel. Malheureusement, on ne peut pas les lire au Palais de Tokyo, soit dit en passant. Et donc, personne n'a compris que l'œuvre était en fait une application. Ce qui m'intéressait, c'était de détourner la forme de l'application. Après tout, elle me dit combien j'ai fait de pas par jour, à quelle heure va passer le 82, combien il y a de monde peut-être dans cette salle, etc. Je peux y lire le journal. Et je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas écrire quelque chose à partir de là? Et effectivement, interpeller le visiteur de l'exposition, non pas pendant les 1 minute 44 qui va passer devant. C'était terrible pour un homme de théâtre qui arrive à coincer son public le temps qu'il veut. Ils peuvent dormir, s'en aller, mais globalement, ils restent un peu quand même en sommeillant. Mais bon. Tandis que là, on ne sait pas combien de temps le visiteur va s'arrêter devant votre œuvre. Alors, on se dit, nous, on va la faire durer tout le temps de l'exposition. Et on travaillait, c'est d'ailleurs aussi le sens du cours d'Alain, sur ces fameux 98-77% de chenons communs que nous partageons avec le singe. Alors, il y en a qui disent, bon, embrassons-nous, Folleville, il n'y a plus de différence, c'est presque ça. Il y a encore quelques métaphysiciens qui disent, heureusement qu'il y a 23%. Bon, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre entre les deux, et de ne pas savoir. On fout d'ailleurs des chimpanzés, je n'ai pas envie de finir ma vie qu'un chimpanzé. J'ai assez comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire ce que j'appelle le moment poétique. Vous mettez 98... Et puis vous associez, vous créez un espace imaginaire avec des textes, des musiques, je ne sais pas quoi, que vous balancez sur l'application. Et je pense que ça peut faire effectivement un travail d'invention de forme et surtout d'une excitation de l'imagination qui brouille la question de l'opinion. Quand on avait fait Ex Vivo in Vivo sur, au fond, l'artificialisation du vivant avec Alain et les médecines un peu bricolées, les naissances un peu bricolées par la technique, journaliste toujours lui, c'est pas le même. Mais nous demandons, mais finalement, on ne sait pas si vous êtes pour la GPA, contre la PMA ou quoi. Comme si c'était la question, comme citoyen, je peux vous dire à la sortie, si vous voulez, mais comme artiste, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est de faire effectivement circuler, ouvrir, faire comme un mobile. Il faut que ça devienne mobile et peut-être ça fait bouger après certaines consciences, certains cerveaux. Il faut faire travailler du cerveau comme on travaille du chapeau. Et donc, je terminerai, là j'ai fini, c'est promis. Après tout, j'en profite. Hein. Justement, sur le... à propos de cette... si je retrouve... Vous pouvez commencer les questions, parce que... Vous préparez la deuxième question tout de suite, le temps que je m'y retrouve. Singe, bonne affaire, ça va ensemble. Et c'est. Ah bien.
Le libre passage de la visibilité à l'invisibilité, qui est comme la respiration du vivant.
C'est ça.
Phyllis, Krupstestai, filet. Vivre, en effet, pour chaque animal, c'est traverser le visible en s'y cachant, et des animaux, la plupart du temps, on ne voit qu'un sillage. Hein? L'espace de nos rencontres avec eux, quand ils sont sauvages, est toujours celui de la surprise et de la déception. Ils surgissent. Ils sont dans l'ordre du surgit, mais rarement pour qu'à partir de là, un déploiement soit rendu possible ou ne s'enclenche. Enfin, mais, hein, on n'est pas à la cour d'honneur. C'est, on n'est pas au festival d'Avignon. Johnny, tu sais ce qu'il te dit, le Belmondo du pauvre? Ouais.
Voilà. Bon, c'est une des choses que pourriez avoir sur votre application si vous l'aviez téléchargée, parce qu'en plus, c'est mouchard, je sais qui a téléchargé et qui regarde vraiment l'application, à bon entendeur.